Chapitre 6 Avertissement contre l'orgueil de la chair et instruction à la piété. L'apôtre nous a avertis contre la chair religieuse qui apostasie de la foi et adopte l'ascétisme. Chapitre 4 Contre la chair mondaine qui mène à la licence et au plaisir égoïste. Chapitre 5 Maintenant, dans le dernier chapitre, nous sommes avertis contre l'orgueil de la chair qui convoite l'argent et les avantages mondains. Pour faire face à ces maux, l'apôtre insiste de nouveau sur la piété pratique. Au verset 3, 5, 6 et 11. Au cours de son exhortation, l'apôtre place devant nous l'esclave chrétien, versets 1 et 2, l'ignorant orgueilleux qui professe être chrétien, versets 3 à 8, ceux qui rechutent étant attirés par les richesses du monde, versets 9 et 10, l'homme de Dieu, versets 11 et 12, Christ, le parfait exemple, versets 13 à 16, les croyants riches dans ce monde, versets 17 à 19, et celui qui prétend avoir une haute science, versets 20 et 21. Versets 1 et 2 Les esclaves chrétiens. Citation de l'Écriture. Que tous les esclaves qui sont sous le joug estiment leur propre maître digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des maîtres, croyants, ne les méprisent pas parce qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant plus que ceux qui profitent de leur bon et prompt service sont des fidèles et des bien-aimés. Enseigne ces choses et exhorte. Fin de citation. Le chapitre débute de façon appropriée par des instructions aux esclaves chrétiens. Ils pouvaient vouloir se servir du christianisme pour améliorer leur position sociale. L'institution de l'esclavage est, en effet, tout à fait contraire à l'esprit du christianisme. Néanmoins, le grand but de la maison de Dieu n'est pas de remettre le monde d'aplomb, ni de faire avancer les intérêts mondains de ceux qui forment la maison, mais de maintenir la gloire du nom de Dieu et de rendre témoignage à la vérité et de la soutenir. L'esclave chrétien devait donc montrer tout honneur à son maître incrédule, afin que rien dans sa conduite ne puisse flétrir le nom de celui qui habite dans la maison, ni renier la vérité que la maison de Dieu doit maintenir. L'apôtre donne un avertissement spécial aux esclaves chrétiens ayant un maître croyant. Le fait que le maître soit un frère dans le Seigneur ne devait pas servir à éteindre le respect dû par un serviteur à un maître. Tout manquement à cet égard serait de la part de l'esclave une tentative d'utiliser le christianisme pour élever sa position sociale, cherchant ainsi un avantage personnel mondain. Dans l'assemblée, l'esclave et le maître étaient sur un pied d'égalité devant le Seigneur. L'esclave pouvait y être plus éminent que son maître terrestre, en raison de sa spiritualité ou de son don. Les esclaves croyants devaient cependant prendre garde à ne pas être tentés d'abuser des privilèges de l'assemblée pour justifier une familiarité intempestive à l'égard de leur maître dans les affaires de la vie de tous les jours. Loin donc de se rendre négligents quant à leurs devoirs vis-à-vis des maîtres croyants, ils devaient plutôt leur rendre d'autant plus service qu'ils étaient des fidèles et des bien-aimés participant aux privilèges chrétiens. Versets 3 à 8 Les professants ignorants, privés de la vérité. Citation de l'Écriture. Si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas à de saines paroles, savoir à celle de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, ne sachant rien, mais ayant la maladie des questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les paroles injurieuses, les mauvais soupçons, les vaines disputes d'hommes corrompus dans leur entendement et privés de la vérité, qui estiment que la piété est une source de gain. Or, la piété avec le contentement est un grand gain, car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Mais ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. Fin de citation. Il est donc clair que le christianisme n'est pas un système pour faire progresser notre position sociale dans le monde. Il est vrai que le croyant, en traversant ce monde, doit faire le bien, et que la présence d'un chrétien et de sa bonne conduite chrétienne doit avoir des effets bienfaisants. Néanmoins, le grand but de la maison de Dieu n'est pas d'améliorer le monde, mais de rendre témoignage à la grâce de Dieu pour que des gens soient sauvés hors du monde qui va vers le jugement en dépit de sa civilisation et de ses améliorations sociales. Dans ses jours du commencement, des gens enseignaient apparemment le contraire. Ils ne voyaient dans le christianisme qu'un moyen de promotion sociale des hommes et des femmes, un moyen de rendre ce monde meilleur et plus brillant. Probablement enseignait-il que l'esclave converti, passé sous la seigneurie de Christ, pouvait s'estimer libéré de son maître terrestre. De tels points de vue étaient toutefois contraires aux saintes paroles, celles mêmes de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine, l'enseignement, qui est selon la piété. Ainsi, encore une fois, l'apôtre introduit la piété comme une sauvegarde contre l'abus de nos privilèges chrétiens. La piété marche dans la crainte de Dieu, se confiant dans le Dieu vivant qui est le conservateur de tous les hommes. Marchant ainsi, nous serons préservés de chercher à utiliser le christianisme simplement comme un moyen d'améliorer notre position mondaine. Après avoir montré que la piété est la sauvegarde contre l'abus du christianisme, l'apôtre déclare que celui qui enseigne autrement est animé par l'orgueil de la chair. L'orgueil qui met sa confiance en lui-même et qui cherche à maintenir sa propre importance est totalement opposé à la piété qui met sa confiance en Dieu et cherche sa gloire. Derrière cet orgueil, il y a l'ignorance des pensées du Seigneur telles que transmises par ses paroles. Cette ignorance des pensées du Seigneur provient de ce que l'on permet à l'esprit humain de s'occuper de questions interminables soulevées par les hommes et de disputes de mots. Entièrement indifférent à la puissance morale de la foi chrétienne qui opère dans l'âme et qui conduit à la vie de piété, les hommes traitent le christianisme comme s'il était une affaire de questions et de disputes de mots. Ces disputes de mots, au lieu d'affermir la piété, ne font que fournir l'occasion de manifester les œuvres de la chair. L'orgueil qui cherche à s'exalter par ces questions sans fin conduit inévitablement à l'envie ou la jalousie, car l'homme orgueilleux ne peut souffrir aucun rival. La chair luttera naturellement contre celui dont elle est jalouse. Ainsi, l'envie conduit aux querelles, et les querelles aux paroles injurieuses. Savoir que des paroles injurieuses ont été prononcées provoquera des mauvais soupçons et de nouveau des disputes vaines. Voilà la récolte de mal issue de l'envie. Il n'y a pas de plus grande puissance pour le mal parmi les saints de Dieu que de laisser l'envie ou la jalousie se développer dans le cœur. La fureur est cruelle et la colère déborde, mais, dit l'Ecclésiaste, qui subsistera devant la jalousie? C'est l'envie ou la jalousie qui a amené le premier meurtre dans ce monde, et c'est l'envie qui a conduit au plus grand meurtre dans ce monde. Pilate savait qu'il l'avait livré par envie. Matthieu 27, verset 18. Hélas, cette envie peut se manifester parmi les vrais membres du peuple de Dieu. Ici, l'apôtre la fait remonter à l'orgueil d'un cœur corrompu et privé de la vérité du christianisme. Le motif sous-jacent est le gain terrestre. Par conséquent, ils soutiennent que le gain est le but de la piété. En d'autres termes, ils enseignent que le christianisme est simplement un moyen d'améliorer notre condition et d'ajouter à nos avantages mondains. Nous savons d'après l'histoire de Job que cela est vraiment une suggestion du diable. Job était un homme pieux et qui craignait Dieu. Mais Satan demande « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ?» La vile suggestion de Satan est que quelque chose comme la piété selon Dieu n'existe pas et que si un homme fait profession de piété, ce n'est pas qu'il craint Dieu ou qu'il se soucie de Dieu, mais c'est simplement qu'il sait que cela paye et qu'il en tirera un avantage mondain. Satan dit à Dieu « Étends ta main et touche à tout ce qu'il a. Tu verras s'il ne te maudit pas en face. » L'Éternel permet que cet horrible mensonge du diable soit complètement mis à nu. Satan est autorisé à dépouiller Job de tout ce qu'il a, et la conséquence en est que Satan est dévoilé comme menteur. Au lieu de maudire Dieu, Job se jeta à terre devant l'Éternel et se prosterna, et dit « L'Éternel a donné, et l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, versets 8 à 12, 20 et 21. La vérité, donc, ainsi que l'expérience du peuple de Dieu, démontre non seulement que la piété est un gain, mais qu'accompagnée du contentement qui fait confiance à Dieu, elle est un grand gain. Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter, malgré tout ce que nous pouvons acquérir comme bien en traversant le monde. Ayant de la nourriture et de quoi nous couvrir, l'esclave avait ses choses. Soyons satisfaits. Versets 9 et 10. Ceux qui rechutent, attirés par les richesses du monde. Citation de l'Écriture. Or, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Fin de citation. En contraste avec le contentement de la piété, il y a le tracas de ceux qui veulent être riches. La richesse a ses pièges, comme l'apôtre le montre un peu plus loin. Mais ce n'est pas nécessairement la possession des richesses qui ruine l'âme, mais plutôt le désir de devenir riche. Il a été souligné que ce mot « volonté » ou « veulent » comprend l'idée d'un but recherché. Le danger est que le croyant, au lieu de se contenter de gagner sa vie, se propose dans son cœur d'être riche. Alors, les richesses deviennent un objet auquel on tient à la place du Seigneur. Il vaut mieux pour nous de nous attacher au Seigneur de tout notre cœur. Acte 11, verset 23. L'apôtre nous met en garde contre les maux qui résultent du désir d'acquérir des richesses. Tous sont tentés, mais celui qui désire être riche tombera dans la tentation et se trouvera pris dans quelques pièges cachés de l'ennemi. En outre, le désir d'être riche ouvre la voie à des désirs insensés et pernicieux, car il flatte la vanité et l'orgueil de la chair en servant l'égoïsme et l'ambition. Voilà les choses qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ainsi, ce n'est pas simplement l'argent, mais l'amour de l'argent, qui est une racine de toutes sortes de maux. Combien il est solennel qu'un croyant puisse se laisser entraîner dans les choses mêmes qui amènent la perdition et la ruine chez les hommes du monde. Même au jour de l'apôtre, certains avaient convoité les richesses, avec pour seul effet de s'égarer de la foi et de se transpercer de beaucoup de douleurs. Versets 11 et 12. L'homme de Dieu. Citation de l'Écriture. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé et tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins. Fin de citation. En contraste avec celui qui s'égare de la foi, l'apôtre nous présente les caractéristiques de l'homme de Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'expression « homme de Dieu » ne se trouve que dans les Épîtres à Timothée. Ici, elle est expressément appliquée à Timothée. Dans la seconde épître, elle est appliquée à tous ceux qui, dans un mauvais jour, marchent dans l'obéissance fidèle à la parole de Dieu. 2 Timothée 3, verset 17. Il y a des choses que l'homme de Dieu doit fuir, des choses qu'il est exhorté à poursuivre, des choses pour lesquelles il est appelé à combattre, quelque chose qu'il a à saisir et quelque chose à confesser. L'homme de Dieu fuira les convoitises insensées et pernicieuses dont l'apôtre a parlé. Il ne suffit cependant pas d'éviter le mal. Il faut poursuivre le bien. Par conséquent, l'homme de Dieu doit poursuivre la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. Quelle que soit la manière des autres d'agir, l'homme de Dieu cherchera à marcher en accord avec ses relations mutuelles avec ses frères. C'est la justice. Mais cette justice, l'un envers l'autre, est vécue dans la sainte crainte qui réalise notre relation avec Dieu et ce qui est dû à Dieu. C'est la piété. En outre, l'homme de Dieu poursuivra la foi, qui a Christ pour objet, et l'amour, qui s'épanche vers ses frères, supportant le mal et les insultes avec une patience tranquille et avec douceur, au lieu de l'impatience et du ressentiment. De plus, l'homme de Dieu ne se contentera pas de fuir le mal et de poursuivre certaines grandes qualités morales. Ces choses sont certes de première importance, mais l'homme de Dieu ne se contente pas de la formation d'un beau caractère individuel, tout en étant indifférent au maintien de la vérité du christianisme. Il réalise que les grandes vérités du christianisme rencontreront l'opposition incessante et mortelle du diable, et il ne reculera pas devant le combat pour la foi, En outre, en combattant pour la foi, l'homme de Dieu n'oubliera pas la vie éternelle qui, bien qu'il la possède dans toute sa plénitude, se trouve devant lui. Il a à la saisir dans une jouissance présente comme l'espérance qui le soutient. Enfin, si l'homme de Dieu fuit le mal, poursuit le bien, combat pour la foi et saisit la vie éternelle, il sera quelqu'un qui, dans sa vie, fait une belle confession devant les autres. Il devient un témoin vivant des vérités qu'il professe. Versets 13 à 16. Le parfait exemple. Citation de l'Écriture. Je t'ordonne devant Dieu, qui appelle toute chose à l'existence, et devant le Christ Jésus, qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate, que tu gardes ce commandement sans tache, irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, laquelle le bienheureux et seul souverain, le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent, montrera au temps propre, lui qui seul possède l'immortalité, qui habite la lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n'a vu ni ne peut voir, auquel soit honneur et force éternelle. Amen. Fin de citation. Pour nous encourager à garder cette commission, l'apôtre nous rappelle que nous vivons sous les yeux de celui qui appelle toute chose à l'existence. Ayant fait cela, ne peut-il pas préserver les siens, même au travers des pires combats qu'il rencontre? En outre, si nous sommes appelés à la fidélité, n'oublions pas que nous sommes sous le regard de celui qui a été avant nous en combat. Et en présence de la contradiction des pécheurs, de la jalousie et des insultes, lui a agi dans une fidélité absolue à Dieu, et il a maintenu la vérité avec patience et douceur. Il a ainsi fait une belle confession. En outre, la fidélité aura sa récompense. C'est pourquoi le commandement est à garder sans tache et irrépréhensible jusqu'à l'apparition de Jésus-Christ. La gloire de son apparition apportera avec elle une réponse à toutes les petites fidélités de notre part, comme elle sera aussi la réponse glorieuse à la fidélité parfaite de Christ. En effet, lorsque celui que les hommes ont injurié, insulté et crucifié sera manifesté en gloire, il y aura alors une réponse complète à toute sa fidélité et aussi un déploiement complet de tout ce que Dieu est. Ce qui est déjà révélé à la foi sera manifeste à tout le monde, à savoir que, dans la personne de Christ, Dieu est révélé comme le bienheureux et seul souverain, le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent, celui qui, dans la majesté de sa déité, possède seul l'immortalité essentielle, et celui qui habite la lumière inaccessible. Ceux qui forment la maison de Dieu peuvent manquer à témoigner pour Dieu. L'homme de Dieu peut ne manifester Dieu que dans une mesure, mais en Christ, il y aura le déploiement complet de Dieu pour sa gloire éternelle. Versets 17 à 19. Les riches dans ce monde. Citation de l'Écriture. Ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle qu'ils ne soient pas hautains et qu'ils ne mettent pas leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu qui nous donne toutes choses richement pour en jouir, qu'ils fassent du bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils soient prompts à donner, libéraux, s'amassant comme trésor un bon fondement pour l'avenir, afin qu'ils saisissent ce qui est vraiment la vie. Fin de citation. L'apôtre a une exhortation particulière pour les croyants qui sont riches dans ce monde. Deux dangers les guettent. Tout d'abord, ceux qui possèdent les richesses ont tendance à prendre des airs hautains, se croyant supérieurs aux autres à cause de leurs richesses. Deuxièmement, ils ont tendance naturellement à se confier dans les richesses, alors qu'elles sont au mieux incertaines. La sauvegarde contre ces pièges se trouve dans la confiance dans le Dieu vivant qui nous donne toutes choses richement pour en jouir. Aussi riche qu'on soit, on ne peut pas acheter ce que Dieu donne. Aussi pauvre qu'on soit, on peut recevoir et jouir de ce que Dieu donne. La confiance dans le Dieu vivant, qui est le donateur de tout bien, permettra à l'homme riche de devenir, lui aussi, un donateur. Or, Dieu aime celui qui donne joyeusement. 2 Corinthiens 9, verset 7. C'est pourquoi les hommes riches sont exhortés à être prompts à donner et libéraux. En agissant ainsi, ils amasseront un bon trésor en vue de la bénédiction à venir, au lieu de s'amasser des richesses pour le présent siècle. L'homme qui amasse pour l'avenir saisit ce qui est vraiment la vie, en contraste avec la vie de plaisir et d'autosatisfaction égoïste que les richesses terrestres favorisent. Versets 20 et 21. Ceux qui professent une haute science. Citation de l'Écriture. Ô Timothée, garde ce qui t'a été confié, fuyant les discours vains et profanes et l'opposition de la connaissance faussement ainsi nommée, de laquelle quelques-uns faisant profession se sont écartés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Fin de citation. Enfin, nous sommes exhortés à garder ce qui nous a été confié. Toute la vérité du christianisme a été donnée aux saints comme un dépôt à garder à l'encontre de toute opposition. Ici, nous sommes spécialement mis en garde contre l'opposition des théories d'hommes qui se révèlent être complètement fausses en ce qu'elles soumettent Dieu, sa création et sa révélation à l'esprit de l'homme, au lieu de se soumettre à Dieu et à sa parole. Occupés présomptueusement de leurs théories incrédules, ils ont négligé la foi.